qui reste énigmatique pour beaucoup, et je crois encore énigmatique. Merci à Franck et merci à toute la parole d'être là pour nous aiguiller. Ça passe.
Merci Philippe, merci à vous tous d'être présents, merci à l'Église ici de nous accueillir dans ses locaux, d'avoir bien voulu recevoir cette conférence animée donc ce soir par la librairie Jean Calvin, puisque vous le savez, nous avons l'habitude d'organiser des conférences dans l'ensemble de Paris intramuros, et donc cette année il y a tout un cycle consacré aux protestants parlent. Nous avons déjà commencé avec une conférence consacrée à Paul Ricoeur, c'était à la mairie du 9e la semaine passée, et nous continuons donc cette semaine avec vous, et on est très heureux, autour de cette thématique, les prophètes parlent en Cévennes au XVIIIe siècle. Je laisse sans plus attendre, puisque nous avons déjà pris du retard, la parole à Jean-Paul Chabrol, qui a des spécialistes de la question, même peut-être le spécialiste de la question du prophétisme, avec un non moins spécialiste ici et grand initiateur des travaux sur les camisards. Et je suis très heureux de le saluer ici avec sa femme, monsieur et madame Joutard. Et donc, nous commençons cette conférence pour 45-50 minutes de conférence, puis après quoi, on aura, si vous le voulez bien, un petit échange que vous pourrez continuer après, personnellement, avec Jean-Paul Chabrol.
Voilà. Bon, je vous remercie. Merci Franck. Merci à l'Église de m'avoir accueilli. Merci à la librairie Jean Calvin. Je suis très honoré de la présence de vieux amis que sont Geneviève et Philippe Joutard, avec qui j'ai longuement travaillé, aussi bien dans le domaine scolaire que dans le domaine scientifique. Voilà. Donc, je vais vous présenter un sujet qui a très longtemps divisé les protestants de France, voire les protestants du refuge, les protestants européens, voire les protestants du monde entier. Et j'allais dire que le prophétisme est encore un passé qui ne passe pas parfois très bien et qui a suscité parfois maintes polémiques. Vous comprendrez pourquoi. Donc, j'ai repris le titre que Franck m'avait suggéré, qui est un très bon titre d'ailleurs, « Les prophètes parlent en Cévennes ». Ils parlent doublement, d'abord par la parole, j'ai rajouté ça, la parole avec un « P ». Vous savez que les ministres, on les appelait les ministres de la parole de Dieu, donc par la parole, et également, c'est ça qui est extraordinaire, qui semble énigmatique, qui semble mystérieux, ces prophètes ont parlé également par leur corps, par le peuple. Alors, très rapidement le plan, une rapide chronologie pour rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'un prophète? L'apparition et l'expansion du prophétisme cévenol. Quelles sont les caractéristiques de ce prophétisme cévenol? Le mot cévenol est mis entre guillemets parce qu'on a donné l'étiquette de cévenol à un phénomène religieux qui dépasse très largement les frontières des Cévennes, les frontières du Languedoc et du Dauphin. Et enfin, très rapidement, la postérité du prophétisme cévenol. Diapo suivante. Alors, une chronologie. Alors, on a changé entre Windows et Mac. C'est une chronologie qui, c'est la diapo en dessous, voilà, qui normalement est à nous. Bon, très rapidement, parce que ça nous avait été demandé encore récemment à Saint-Jean-du-Gard avec Philippe Joutard sur un autre thème, de ne pas mettre le nom des rois dans la chronologie. Donc, je vous ai mis Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. En dessous, les trois périodes historiques que l'on appelle les trois déserts. Le désert du traumatisme, celui qui correspond, qui est la conséquence de la révocation de l'édit de Nantes. Trois choses à retenir. En l'espace de quelques semaines, sous la pression violente des dragons, la population protestante se convertit au catholicisme. Les temples sont pratiquement tous détruits et les pasteurs ont 15 jours pour quitter la France. Ils se sont pratiquement à 98%, 99% tous exilés hors de France. Sinon, ils étaient obligés de se convertir et s'ils ne se convertissaient pas, ils étaient susceptibles d'être condamnés à mort. Donc, c'est un traumatisme. Le désert de la Restauration, c'est quelque chose d'important dans l'histoire du prophétisme. Et puis, le désert de la tolérance de fait, mais là, on est déjà hors sujet. Le prophétisme n'existe pratiquement plus à cette époque. Alors, les dates importantes, donc je viens de dire la révocation de l'édit de Nantes. Alors là, on a le spécialiste, c'est Philippe. Il va sortir très prochainement un livre sur donc, l'édit de Nantes. Avec la naissance de la période du prophétisme Cévenol. Il naît en 1688 en Dauphiné avec une bergère soi-disant illettrée qui est Isabelle Vincent. Ce prophétisme se développe et enfle et connaît son apogée à l'époque de la guerre des Camisards, puisque les trois quarts des chefs Camisards ont été prophètes. Même ceux qui l'ont nié, comme Jean Cavalier, ils ont été prophètes. Et ceux à qui on n'a pas reconnu véritablement l'étiquette de prophète, comme Roland, Pierre Laporte, dont la maison est devenue le musée du désert, Pierre Laporte a été également prophète. Voilà. Alors donc, la guerre des Camisards est une guerre conduite par des chefs prophètes. Ensuite, on a en 1715-1716 ce que l'on appelle les deux synodes des Montaises. C'est le début de la restauration de l'Église protestante sous la conduite du jeune Antoine Cour. Et c'est à partir de là que naissent des frictions entre les prophètes, ceux qui restent des prophètes et des prophétesses, et les restaurateurs du protestantisme languedocien. Voilà. Et ce prophétisme cévenol, eh bien, disparaît aux alentours de 1750, au moment même où la France, le royaume de France, entre dans ce qu'on appelle les Lumières, c'est-à-dire le triomphe a priori du rationalisme, du cartésianisme, etc., du déisme, et on pourrait multiplier les références. Diapo suivante, voilà, je vais taper dans les mains. Qu'est-ce qu'un prophète ou une prophétesse? À quelle tradition le prophétisme huguenot se rattache-t-il? Très rapidement, il faut savoir que le prophétisme n'est pas né avec le christianisme ou même avant avec le judaïsme. Dans l'Antiquité, on connaissait le prophétisme aussi bien chez les Grecs, les Romains, etc. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Et ça, c'est important. Si on pose la question à quelqu'un aujourd'hui, je l'ai souvent fait, quand on dit qu'est-ce qu'un prophète, on vous dit c'est un devin, c'est quelqu'un, c'est un voyant, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. C'est peut-être vrai, en réalité, il faut revenir au mot, à l'étymologie, c'est un mot grec. Le prophète est une personne qui parle au nom de Dieu. Autrement dit, un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Et cette personne-là, et les gens qui l'écoutent, ses auditeurs, ses auditrices, sont convaincus, lui le premier, mais les autres en face, que Dieu lui envoie son esprit ou son souffle. Ce souffle tombe, entre guillemets, ou chute sur le prophète, donc il est le représentant, le porte-parole de Dieu. Et très souvent, ces prophètes, ceux qui ont laissé des écrits, disent « Nous sommes les messagers de Dieu, nous sommes les instruments de Dieu, nous sommes les organes de Dieu. Lorsque nos lèvres s'ouvrent, eh bien, c'est Dieu, en effet, qui les anime. » Et ces gens-là disent « Voilà, nous sommes inspirés par Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. » Ou d'autres disent « Nous sommes révélés », c'est-à-dire que Dieu, par son esprit, nous a donné le don de révélation. Voilà donc ce qu'est un prophète. Alors, à quelle tradition ce prophétisme huguenot se rattache-t-il? Bien évidemment, il ne se rattache pas au prophétisme catholique qui s'était développé, pour prendre le cas de la France, durant l'époque médiévale et qui s'est peut-être éteint depuis. Alors, diapo suivante. Voilà. Les prophètes huguenots, les prophètes cévenols, les prophètes protestants puisent dans une véritable somme du prophétisme, le réservoir du prophétisme, il puise très largement dans l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas détailler, faut baisser un peu la diapo. Voilà. Abraham, Moïse, donc une majorité d'hommes, bien qu'il y ait eu dans l'Ancien Testament des femmes prophétesses, donc il puise dans cette tradition, surtout marquée par Élie et Élisée, c'est-à-dire que les prophètes connaissent en effet un roi, etc., et ils puisent là-dedans. Ensuite, il puise dans ce que l'on appelle les petits prophètes, toute cette période de prophètes, de Ésaïe jusqu'à Malachie, et il trouve des références, des paroles, etc., des écrits dans ces prophètes. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on appelle, en termes savants, la tradition vétérotestamentaire, c'est-à-dire puisée dans l'Ancien Testament. Mais il faut savoir que les protestants français, à partir du XVIe siècle, que les calvinistes languedociens avaient en effet une grande admiration envers l'Ancien Testament. Alors, ils ne négligeaient pas le Nouveau Testament, mais ils puisaient en effet leurs réflexions, etc., dans cet Ancien Testament. Diapo suivante. Deuxième source, en effet prophétique, le prophétisme du Nouveau Testament et surtout ce que j'ai appelé le prophétisme pauline. C'est-à-dire qu'il y a une tradition charismatique paulinienne qui perdure aujourd'hui dans certaines églises protestantes, notamment évangélistes, mais même dans certains courants charismatiques catholiques, qui puissent très largement, en effet, dans cette tradition. Alors, je ne vais pas détailler pour être dans les temps, mais je vais lire uniquement la première phrase. Qu'est-ce qu'on lit dans 1 Corinthiens ? Il y a une diversité de dons, il y a un même esprit en rouge, mais à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour ce qui est expédient. Et à la fin, mais ce seul et même esprit fait toutes ces choses, distribuant particulièrement à chacun selon qu'il veut. Et en effet, les prophètes languedociens, les prophètes séminoles se rattachent en effet à cette tradition et se rattachent à cette croyance. Et lorsqu'ils disent à l'encontre d'une partie des pasteurs du refuge, je suis inspiré, le Saint-Esprit, en effet, anime ma bouche, je suis l'organe de Dieu. Pour eux, la réponse est dans ce texte. Alors, les dons, ils sont multiples et j'indiquerai, en effet, quels sont ces dons. Troisième tradition. Alors, celle-là, elle est oubliée. Elle est parfois masquée par un certain nombre d'historiens du passé, parfois récents. C'est la diapo suivante, méconnu, sous-estimé, le prophétisme nostradamique. Les émules de Nostradamus, en effet, se livrent à des prophéties, publient des livres dans lesquels sont consignées de très nombreuses prophéties. Parfois, ils reprennent celles de Nostradamus, parfois, ils les amplifient, ils en inventent de nouvelles, etc. Pendant très longtemps, et Philippe Joutard sera d'accord avec moi, eh bien, le monde protestant a laissé penser que le protestantisme aurait éliminé, reflué toute une dimension prophétique, non issue de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, aurait également éliminé le folklore, les superstitions, etc. C'est faux. Bien évidemment. Et ce prophétisme nostradamique, on le retrouve ici et là, dans les paroles, voire même parfois dans les écrits des prophètes dauphinois, languedociens, qu'ils soient du Vivarais ou qu'ils soient du Languedoc. On va venir très rapidement, on ne change pas de diapo, à Isabeau-Vincent. Isabeau-Vincent, Philippe Joutard, ici présent, et le pasteur Manin, ont découvert en Ardèche un recueil manuscrit des paroles d'Isabeau-Vincent. J'allais dire, il est orthodoxe, celui-là. J'ai fait des recherches et à Genève, j'ai trouvé un recueil semblable, mais avec des compléments. Et dans ces compléments, on met dans la bouche d'Isabeau-Vincent, mais peut-être qu'elle l'a fait elle-même, des prophéties venues de Nostradamus ou des successeurs de Nostradamus. Et tenez-vous bien, Marie Durand, qui a été emprisonnée pendant 30 ans dans le tour de Constance, c'était dans les dernières années de sa captivité. Devinez ce qu'elle fait, ce qu'elle demande, hein, à un de ses correspondants. Je traduis, « Envoyez-moi les prophéties de Nostradamus. » On croit s'asseoir, bien évidemment. Alors elle dit, « Non, je ne suis pas une voyante, comme pour s'excuser, mais elle poursuit et elle s'appuie sur des prophéties de Nostradamus pour dire, ben voilà, très prochainement, nous serons libérés, etc. etc. » Ce qui veut dire que des protestants qui, j'allais dire, sont pétris, entre guillemets, d'orthodoxie, sont sensibles à cette tradition prophétique. Donc, vous voyez, il y a une tradition prophétique, j'allais dire, religieuse, qui a un long passé, biblique ou pas, et une tradition prophétique, celle de Nostradamus, entre guillemets, laïcisée, en réalité, pétrie de catholicisme et de christianisme, qui se mêle, si vous voulez, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Apparition et expansion du prophétisme. Alors, le prophétisme que l'on appelle Cévenol ou que l'on appelle languedocien, le prophétisme huguenot, il n'est pas né en Languedoc, il est né en Dauphiné, puis en Vivarais, 1688-1689. À l'origine de ce prophétisme huguenot, je l'ai dit tout à l'heure, une bergère, Isabeau Vincent, on dit qu'elle est illettrée, et c'est elle, en effet, qui est à l'origine de ce courant qui va se répandre en Vivarais, puis en Languedoc. Et donc, vous avez une stèle qui est toujours présente ici, près de Poète Laval. Je vous invite à visiter cette région qui a été marquée du souffle prophétique. Alors, très rapidement, Isabeau Vincent, elle prophétise entre le début février 1688 jusqu'en juin. Elle prophétise chez elle, dans la maison de son oncle, dans une ferme isolée. Et là, au début, elle prophétise clandestinement. Il n'y a que les membres de la famille ou les voisins qui viennent voir cette bergère. Et qu'est-ce qui étonne chez cette bergère? Un, elle prophétise en dormant. Deux, elle prophétise en français, alors qu'elle parle l'occitan. C'est, j'allais dire, presque sa langue maternelle. Elle prophétise en français. Trois, quand on la fique, paraît-il qu'elle ne bouge pas. Elle est dans une sorte de somnolence ou de catalepsie. On lui lève la main retombe. Quatre, non seulement elle prophétise en français, mais elle est capable de réciter le Pater Noster. Cinq, elle est capable de controverses anti-catholiques. Alors au début, bien évidemment, les voisins se précipitent la nuit dans cette ferme isolée. On l'écoute, quelques-uns recopient les paroles qu'elle prononce dans son sommeil, du moins apparent, et puis peu à peu, le phénomène s'ébruite, un certain nombre de protestants tout autour, voire même de catholiques, qui ne se font pas passer pour des catholiques, mais viennent la voir, et en l'espace de quelques mois, les prouesses d'Isabeau Vincent circulent à travers le royaume de France, puisqu'on a trouvé des lettres qui mentionnent la prédication ou les prophéties d'Isabeau Vincent, on a trouvé des lettres jusque dans le grand ouest de la France, sur la côte atlantique. L'affaire devient médiatique et devenant médiatique, elle alerte les autorités politiques et locales catholiques. Résultat, Isabeau Vincent est incarcéré à Cré en 1688 pendant le mois de juin 1688. Alors là, les curés viennent la voir, des médecins viennent la voir, des nouveaux convertis, des protestants viennent la voir, et tout le monde crie au miracle. Les curés tentent bien de la faire abjurer, que nenni, et elle continue. Et puis de Cré, on l'envoie à Grenoble, elle est incarcérée, elle fait toujours l'objet d'une très grande curiosité de tous les milieux intellectuels, lettrés, l'Église catholique, etc., etc., les pouvoirs. Elle est libérée, et chose qu'un certain nombre de protestants ont voulu cacher jusqu'à une date récente, elle a abjuré le protestantisme, elle s'est mariée, et on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Alors Antoine Cour, qui n'aimait pas ni les prophétesses ni les prophètes, a admis qu'elle avait abjuré. Pardonnez-moi. À partir de ce moment-là, elle fait des émules. Elle fait des émules d'abord dans la région, dans le Diwa, c'est une magnifique région, elle fait des émules, et là, un certain nombre de jeunes gens deviennent ce que l'on appelle des prophètes dormants. L'intendant de Grenoble sévit contre ces prophètes, ils sont emprisonnés, etc. Les familles également sont soumises à des amendes, et au bout de quelques mois, ce prophétisme dauphinois disparaît. En réalité, il ne disparaît pas, il reste clandestin. Et ce prophétisme, lui, va passer du Dauphiné en Vivarais, plus exactement dans la région des Boutières. La région des Boutières, c'est une région qui ressemble d'ailleurs étrangement aux Cévennes. C'est une région qui était très protestante, et c'est une région, en effet, dans laquelle le prophétisme va se répandre. Et là, de nouveaux prophètes apparaissent, des hommes et des femmes, la plupart issus de la paysannerie, mais on compte ici et là des femmes, surtout des femmes, issues de milieux plus ou moins aisés. Le phénomène gagne de l'ampleur, ces prophètes et ces prophétesses remplacent les pasteurs qui se sont exilés, ils animent des cultes qui sont des cultes clandestins, donc interdits par le pouvoir, et en 1689, une répression féroce, mais véritablement féroce, s'abat sur les protestants de Boutières. Les prophètes et les prophétesses sont emprisonnés, pendus pour les hommes, brûlés, écrasés par les bourreaux sur une roue, et on a plusieurs massacres. Le plus célèbre, c'est le massacre du cerf de la Palle, et là, les dragons du roi tire sur la foule qui était venue écouter des prophètes et des prophétesses, et il y a au moins peut-être une centaine de morts, et on ne sait pas combien de blessés. Et à la suite de cette répression véritablement sanglante, ce prophétisme perdure, mais il perdure dans la clandestinité. Et progressivement, ce prophétisme va se diffuser vers le sud. Non, là on a sauté, je crois, une diapo. Il y a eu. Voilà. C'est... Non ?
Ça va ?
Ah bon, remonte. Je reviens à Isabeau Vincent. Alors, que dit et que fait Isabeau Vincent ? On dit que c'est une prophétesse, mais Philippe qui est là, avec le pasteur Manin, lorsqu'ils ont publié cet ouvrage dans lequel il y avait un recueil des prophéties d'Isabeau Vincent, on mit au mot prophétesse des guillemets. Et la nuance, elle est importante. Parce qu'on dit d'Isabeau Vincent que c'est la première prophétesse, en réalité, je pense que c'est plutôt une prédicante qu'une prophétesse. Alors les prédicants, j'explique très rapidement ce que c'est. Lorsque les pasteurs ont quitté le royaume de France à la fin de l'année 1685, des laïcs se sont improvisés pour les remplacer, et on les appelait prédicants. Ils n'avaient aucun bagage théologique, même si très souvent ils appartenaient à des consistoires. Et donc, il y a eu une majorité de prédicants, d'hommes, mais il y a eu également des prédicants. Alors, que dit Isabeau Vincent ? D'abord, elle demande la repentance, l'amendement de vie, la pénitence, la conversion, c'est-à-dire qu'elle critique tous les protestants qui sont allés abjurer sous la contrainte en 1687. Elle demande à ces protestants de vivre en bons chrétiens et elle considère que cette abjuration est le plus grave et le plus lourd et le plus culpabilisant des péchés. Deuxième chose, dans son sommaire, elle dit « n'allez pas à la messe, ne communiez pas, ou alors si vous communiez, vous gardez l'hostie dans votre bouche et quand vous sortez, vous la crachez. Et vous refusez les derniers sacrements. » Et en effet, un certain nombre de prophètes et de prophétesses, aussi bien en Dauphiné qu'en Vivarais et en Languedoc, lorsqu'on apprenait qu'un protestant était sur le point de mourir, une protestante, on se précipitait avant le curé, si possible, pour lui dire de refuser la venue du curé. Elle enseigne la patience et la persévérance, la miséricorde de Dieu, et sous l'influence d'un prophète installé au refuge qui est Pierre Jurieux, le prophète de Notre-Dame, qui se livrait à des calculs savants, elle annonce la libération de l'Église pour 1688. Elle est convaincue que l'Église catholique va être châtiée et que triomphera l'Église protestante. Alors elle donne la date de 1688. Pierre Jurieux, lui, était convaincu que ça allait se passer en 1689. Puis il a révisé ses calculs. Il a dit non, finalement, ça va se passer, la libération, vers 1715. Retenez cette date. Alors, le prophétisme cévenol, donc, va se répandre entre 1689 et 1700. Donc, le Dauphiné, le Vivarais, malgré la répression, ce prophétisme se maintient, et puis progressivement, vers 1700-1701, un certain nombre de prophètes et de prophétesses descendent dans le sud, dans le diocèse d'Uzès, Jean diocèse d'Alès et le diocèse de... Et tous ces losanges que vous voyez, on les a cartographiés avec un ami ici dans l'Atlas des Camisards, Jacques Conduit, sont les lieux de naissance des prophètes. Et vous voyez qu'ils sont particulièrement nombreux dans la région de Nîmes, en Grenage, dans les Cévennes, en Haute-Cévennes. Voilà donc un phénomène, vous voyez, qui se répand, et qui se répand malgré la répression qui est absolument féroce. À chaque fois qu'on prend un prophète ou une prophétesse ou un prédicant, eh bien, si ce sont des hommes, ils sont pendus, les prophétesses sont également pendues, et tous ceux qui assistent au culte animé par ces prophètes et ces prophétesses, eh bien, si ce sont des hommes, ils sont condamnés aux galères, si ce sont des femmes, elles sont emprisonnées, notamment plus tard à la tour de Constance. Quelles sont les caractéristiques de ce prophétisme sévère, c'est-à-dire à partir du moment où il touche, vous voyez, cette aire géographique très vaste qui va de Nîmes jusqu'au Mont Lozère, du Vivarais, jusque dans la région de Mont. Ce prophétisme sévenol, eh bien, il a plusieurs caractéristiques et ce sont celles qui dérangent le plus encore de nous. Tout d'abord, ces prophètes ou ces prophétesses se manifestent par une gestualité étonnante, surprenante, sidérante. Pourquoi ? Isabeau Vincent, elle était dans son lit, somnambule peut-être, elle ne bougeait pas beaucoup, donc une gestualité, j'allais dire, égale à zéro. Par contre, quand le prophétisme s'installe en Vivarais, on voit des phénomènes corporels étonnants. En effet, la plupart de ces prophètes ou de ces prophétesses sont ce que l'on appellerait des convulsionnaires. Je viens de voir un livre qui vient de paraître, un grand historien français qui s'appelle Bercé, spécialiste des mouvements populaires, des révoltes, etc., il vient de faire paraître un livre dans lequel il y a un petit chapitre sur les prophètes cévenols, pas le meilleur, et lui, il en fait des hystériques, comme les convulsionnaires ici de Saint-Médard, qui, eux, étaient jansénistes. Bon, cette gestualité, elle se traduit par, j'allais dire, donc Isabeau Vincent, gestualité zéro, mais en Vivarais et en Languedoc, un prophète, lorsqu'il s'adresse à ses auditeurs, très souvent la nuit, pendant des cultes clandestins, il se met à frémir. Ça, c'est pas bien grave. Mais il y en a d'autres qui gesticulent totalement et surtout, ils tombent au sol. Ils tombent au sol et pendant plusieurs minutes, quart d'heure, etc., ils sont considérés comme morts. Certains roulent des yeux, d'autres ont le ventre qui gonfle. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est surtout quelque chose de stupéfiant. Donc ils tremblent de tous leurs membres, etc. Ils se roulent par terre, certains bavent, certains crachent, certains, paraît-il, pleurent des larmes de sang, etc. Et au bout de quelques minutes, quart d'heure, parfois une heure, eh bien le prophète sort de ce qu'il appelle l'extase. Il sort de l'extase. Donc il a reçu l'esprit ou le souffle de Dieu, c'est pour ça en effet qu'il y a cette manifestation corporelle, tutoyer Dieu, c'est ce qu'ils font tous, être sous la domination de Dieu, c'est une sorte de violence qui s'applique à ces hommes dont ils sont les représentants de Dieu. Et à partir de là, ils délivrent en effet un message. Ils se redressent, parfois pas toujours, certains restent dans l'état où ils sont, au sol, mais d'autres se redressent et ils disent « Voilà ce que j'ai entendu de Dieu. » Et donc, ils parlent. Et donc, ils vont délivrer à la fois un message de malheur, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, et un message de salut. Si nous sommes dans cette situation-là, c'est que nous avons péché. Ils expliquent que la révocation des édits de Nantes, en effet, est due au péché des protestants. Dieu les a châtiés pour avoir péché. Mais un message de salut, si nous nous comportons en bons chrétiens, eh bien, nous assurerons le salut, à condition de tourner le dos à l'Église catholique hein, et de revenir dans l'Église protestante, c'est-à-dire de refuser la catholicisation. À cela s'ajoute un discours apocalyptique, tous disent nous sommes à la fin des temps où les temps hein, vont s'abréger. Un discours apocalyptique qui puise dans l'Ancien Testament l'Apocalypse de Daniel ou dans le Nouveau Testament l'Apocalypse de Jean. Et donc ils annoncent l'imminence de la fin des temps et du jugement dernier. Et puisque le jugement dernier est imminent, il faut vivre en bon chrétien, se laver de tous ses péchés, et notamment du plus grave des péchés qui ont été commis en 1685 et après, d'avoir abjuré le protestantisme, la foi des ancêtres, et d'être devenu catholique. Et puis, il développe également un discours messianique de libération. Tous ces protestants persécutés en France attendent un messie qui viendra les libérer. Alors ce Messie pour eux a eu plusieurs noms. Pendant très longtemps, ils ont cru que Guillaume d'Orange serait ce Messie qui les libérerait de l'oppression catholique et notamment de celle de Louis XIV. Après, ça a été le maréchal de Chambord. C'est-à-dire que finalement, hein, ils espèrent que les ennemis de la France viendront les délivrer. Et les plus radicaux d'entre eux sont persuadés que Louis XIV hein, sera obligé de rétablir l'édit, ce qui n'a jamais fait. Et enfin, un discours millénariste, j'expliquerai ça dans un instant. Cette gestualité du prophète Zénol, donc que je nommais extase, que les Anglais appellent enthousiasme, que nous appelons charisme, et souvenez-vous, en effet, du texte de Jean, 1 Corinthiens, tout ça, ça renvoie en effet à cette tradition polygène. Donc, agitation du corps, elles sont absolument incroyables lorsqu'on lit les textes, on est ahuri, on se dit même parfois est-ce que c'est vrai, et pourtant ce sont eux-mêmes les prophètes qui parlent et qui disent en effet ce qu'ils ont vécu. Chute des corps, la plupart de ces prophètes ou de ces prophétesses tombent au sol, alors parfois ça tombe bien parce qu'il y a une chaise, et donc ils posent le derrière sur la chaise, là ils risquent pas. Ils ont des visions, ils voient des anges, des météores, certains disent en effet on voit des fusées dans le ciel, des lumières, etc. On a quelques cas de voyance, certains disent voilà, j'ai vu notre oppresseur qui faisait ceci, cela dans sa maison. Et puis, on a des miracles. Alors, parmi les deux plus grands miracles, qui faisaient d'ailleurs ricaner Antoine Court et bien d'autres au refuge, quelques prophètes et prophétesses qui versent des larmes de sang. Alors, on sait que c'est une maladie extrêmement rare. Bien évidemment, au refuge, les pasteurs, j'allais dire orthodoxes, l'Église catholique crie à la supercherie, mais j'ai publié un petit livre à propos d'une affaire qui s'est déroulée en 1701 ou 1702 en Vivarais. 5 personnes ont été condamnées à mort, ont été pendues pour avoir affirmé que la prophétesse qu'ils avaient devant eux verser véritablement des larmes de sang et que c'était un miracle. Or, vous savez que dans le monde protestant, hein, on n'aime pas trop les miracles, à l'exception de ceux des temps apostoliques. Et puis, miracle du feu, on a 3 ou 4 exemples de prophètes, surtout, alors les prophétesses étaient peut-être plus chatouilleuses, en tout cas de prophètes qui auraient traversé des brasiers sans jamais se brûler. Antoine Court a fait une enquête. Il avait à côté de lui ses plus fidèles compagnons qui avaient été plus ou moins prophètes et puis qui ensuite ont lutté contre les prophètes. Eh bien, ces gens-là, qui étaient pourtant devenus hostiles au prophétisme, ont toujours dit à Antoine Court, le miracle du feu du prophète Clary, je peux t'assurer, je traduis, que c'est un véritable miracle, que Clary a traversé le brasier sans jamais se brûler. Antoine Court n'en a jamais été convaincu. Et enfin, exceptionnellement, ce que l'on appelle en termes savants la glossolalie, un certain nombre de prophètes parlent en langue, un langage tiré de la Bible. Quelle est la postérité du prophétisme sévenol ? Le prophétisme sévenol en exil. Alors, avant de parler de l'exil, dire quand même rapidement l'évolution, j'allais dire, de la parole prophétique. De Isabeau Vincent jusqu'à l'automne 1702, ce prophétisme, il est pacifique, essentiellement pacifique. Certes, on critique l'Église catholique, on critique Louis XIV, etc., qu'on surnomme Pharaon, etc., mais on n'appelle pas à la révolte. Par contre, quand le prophétisme va gagner les Hautes-Cévennes, progressivement, ce prophétisme va devenir un prophétisme guerrier et les prophètes, à partir du printemps 1702, appellent à la vengeance divine. Et ils puisent leur référence dans l'Ancien Testament. Gédéon, les Maccabées, etc. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, regardez, hein, du temps de l'Ancien Testament, eh bien, tous ceux qui se sont persécutés se sont dressés les armes à la main pour châtier ceux qui les persécutent. Donc ce prophétisme devient violent et, vous le savez, le 24 juillet 1702, au pont Montvert, en Haute-Cévenne, au pied du mont Lozère, une bande d'une cinquantaine de jeunes gens, encadrés par des prophètes, dont le prophète Esprit Séguier ou Abraham Hazel, assassinent l'abbé Duchéla, qu'il considérait comme étant leur plus grand persécuteur. Et d'ailleurs, il est trucidé sur un des ponts du pont de Montvert. On raconte que chaque prophète, et puis ceux qui les accompagnaient, lui ont donné 50 ou quelques coups de couteau, et on le laisse mort. Et c'est le début de la guerre des Calistes. Ce prophétisme donc anime la guerre des Camisards. Les Camisards sont battus et un certain nombre de Camisards vont s'exiler à Londres en 1706. Et parmi eux, il y a le prophète Élie Marion qui était né à Bar-des-Cévennes et qui était devenu prophète et Camisard à partir de 1702-1703. Et ces prophètes Camisards, arrivés à Londres, ils sont en butte à l'hostilité de l'église anglicane et surtout de l'église calviniste. Il y avait à peu près 50 000 Français réfugiés à Londres et qui étaient encadrés par des consistoires calvinistes. Et ces consistoires calvinistes étaient totalement hostiles au prophétisme. Donc, ils sont attaqués, on dit que ces prophètes sont des manipulateurs, que ce sont des acteurs, qu'ils s'érigent en prophètes, etc. Ce sont des simulateurs, tout ce que vous voulez. Et pour se défendre, ils vont publier un livre qui a marqué très longtemps l'historiographie de la guerre des Camisards, voire même du protestantisme, le fameux Théâtre sacré des Cévennes, où récit des diverses merveilles nouvellement opérées dans cette partie. Merveille, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Ça veut dire miracle. Et quand vous consultez ce livre, eh bien, ce sont des prophètes et des prophétesses qui disent voilà quelle a été notre expérience personnelle. Et ils relatent tous les miracles dont j'ai parlé à l'instant très rapidement. Ce livre, il a connu, quand il sort en 1706, un très grand succès à Londres, ça a été un best-seller, mais également dans le refuge. Il a été acheté aussi bien par des gens qui croyaient en la sincérité des prophètes Camisards, des prophètes Cévenols, que ceux qui, au contraire, comme l'Église catholique, y dénonçaient une supercherie. Et ce livre, Philippe Joutard en témoignera, il a eu un grand écho au XIXe siècle. Quand Michelet a parlé des Camisards, il s'est appuyé sur ce livre et il dit que ce livre a été pour lui une révélation, c'est un livre qui l'a bouleversé. Et plus tard, au XIXe siècle, des missionnaires moraves, des missionnaires liés au réveil protestant se sont également appuyés sur le Théâtre sacré des Cévennes, voire même ont réédité le Théâtre sacré des Cévennes, et à partir des années 1850 environ, ce courant protestant disait ce que vous lisez dans ce livre est vrai, ces prophètes Camisards ne sont pas des simulateurs, ne sont pas des menteurs. Ce prophétisme Cévenol en exil va prendre une autre orientation, j'allais dire théologique ou idéologique. Le message va devenir résolument millénariste. C'est-à-dire que ces prophètes annoncent la seconde venue du Christ sur la terre pour un règne de mille ans. Et là, il s'appuie sur l'Apocalypse de Jean. C'est un courant donc millénariste qui perdure dans certaines églises protestantes notamment jusqu'à aujourd'hui et qui va être véhiculé par ces prophètes Camisards en exil, puis une fois morts, par leurs époux. Et donc, ils tournent le dos à une grande partie des messages qu'ils avaient entretenus avant ou pendant la guerre des Camisards, et donc, ils vont être uniquement, vous voyez, chargés de délivrer ce message dans le monde protestant et dans le monde catholique. Alors, voyons voir rapidement où ont opéré ces prophètes Camisards. Tout d'abord, ils ont fait des premiers voyages dans les pays protestants du refuge, essentiellement en Allemagne. Ce sont des missionnaires, et là, ils ne se sont pas trompés de cible. Ils se sont dirigés principalement dans toutes ces petites communautés de Français réfugiés en Allemagne et en Europe. Donc, ils s'adressent à eux. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès. En Allemagne, hostilité du clergé luthérien. En Allemagne encore, hostilité du clergé calviniste, notamment dans les petites communautés françaises installées là. Mais malgré tout, ils ont fait quelques émules, ils ont fait quelques disciples, et on trouve ici et là le théâtre sacré des Cévennes, traduit en allemand, en hollandais, etc. Donc, ils font le tour de l'Allemagne, c'est pas un grand succès, mais malgré tout, ils ont lâché quelques livres. Et puis, Élie Marion et d'autres, et ça, c'est intéressant, c'est un quatuor de prophètes, ils sont accompagnés par un des plus grands savants de l'époque, Nicolas Facio. Nicolas Facio, c'est celui qui a donné un des premiers d'altitude du Mont Blanc. Il est l'inventeur pour les montres des rubis, je ne sais pas pourquoi ça sert des rubis, mais enfin, ça sert à des mécaniques dans les montres, donc c'est un grand savant. Donc vous voyez un grand savant rationaliste qui devient le secrétaire d'Élie Marion et d'un autre prophète, et cette fois-ci, ils font le tour de l'Europe. Donc ils traversent la Hollande, l'Allemagne, ils vont en Suède. Alors là, ils sont déçus parce que ils pensaient que l'esprit allait leur donner le don des langues, qu'ils pourraient se faire entendre des Suédois. Manifestement, ils ne comprenaient pas très bien le français. Mais ils sont pas rebutés. Ils traversent la Prusse, ils reviennent en Allemagne. Et là, en Allemagne, ils ont un peu plus de succès. Ils ont un peu plus de succès dans les milieux protestants que l'on appelait les piétistes. Et là, ils font quelques convertis. Ils vont jusqu'à Constantinople. Alors là aussi, échec total, ils n'arrivent pas à convertir le grand turc. Ils vont donc à Turquie, et puis ils reviennent par Livourne. Le prophète Élie Marion meurt en 1713 à Livourne, et puis ils regagnent à travers l'Allemagne l'Angleterre. On pourrait penser que c'est un échec. Or, en réalité, ces prophètes misards font des émules en Angleterre. Ils sont à l'origine. Si on veut être négatif, on dira secte. Si on veut être positif, on dira église. Ils sont à l'origine d'une église ou d'une secte que l'on appelle les French Prophets. Alors, français, parce qu'à l'origine, ce sont des Français qui sont à l'origine de cette église, mais en réalité, cette église ou cette secte va être dominée très largement par les Anglais à 80%. Et cette église ou cette secte va avoir à son apogée peut-être entre 1000 et 2000 adeptes qui vont en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, etc., qui vont animer des cultes en marge des églises luthériennes ou des églises calvinistes ou des églises anglicanes. Alors ils sont persécutés et certains d'entre eux, alors là je vais aller très vite hein, pour être dans les temps, c'est bon, Franck. Eh bien, certains d'entre eux, parce qu'ils sont persécutés en Angleterre, ils sont persécutés par l'Église anglicane, par toutes les autres églises, eh bien, ils se disent, la terre promise n'est plus en Europe, la terre promise se trouve en Amérique. Et en Amérique, ils sont à l'origine de plusieurs églises qui ont pratiquement perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais en donner deux. La première qui a une très grande importance culturelle, voire même artistique, c'est l'église des Shakers. À l'origine de l'église des Shakers, il y a une prophétesse, une femme, qui s'appelle Anne Lee. Et là, on a cartographié tous ses déplacements à l'intérieur du nord-est des États-Unis. Et elle est la mère fondatrice de l'église des Shakers. Alors, malheureusement, un des principes théologiques des Shakers, c'est le célibat. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui ils n'ont plus beaucoup d'adeptes. Je crois qu'il n'y a plus que un ou deux shakers, mais ce sont des gens absolument remarquables. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est l'importance culturelle des Shakers, vous l'ignorez peut-être, dans le domaine du design, etc. Bon, et puis il y a une deuxième église qui aujourd'hui est toujours présente, c'est l'église d'Amana dans l'Ohio. Et vous, si vous tapez église d'Amana Ohio, vous ne serez pas surpris, comme pour les Shakers, de voir qu'ils se revendiquent de ce courant prophétique dont les Français sont à l'origine. Alors, très souvent, ce sont des Allemands pour Amana qui, persécutés, sont partis d'Allemagne, se sont installés aux États-Unis. Alors la belle reconversion de l'église d'Anana, c'est une société qui fabrique des frigos, des réfrigérateurs. C'est le capitalisme triomphant, mais vous savez, les rapports réels ou supposés entre capitalisme et protestantisme. En Languedoc, le crépuscule du prophétisme s'est mis. Il va s'opérer en deux temps. Premier temps, en 1715-1711, quand Antoine Court, tout jeune, très jeune, il a une vingtaine d'années à peine, décide de restaurer le prophétisme, je vais être très bref pour être dans le temps, il le fait contre le prophétisme. C'est-à-dire qu'en 1715 et 1716, dans les deux premiers synodes...
Il restaure le protestantisme.
Dans les deux premiers synodes de 1715, je vais être très bref, on interdit aux femmes de prendre la parole, on interdit aux femmes de prophétiser, et c'est la rupture entre Antoine Court et tous ceux qui le suivent, comme Cortès et bien d'autres, qui ont pourtant longtemps frayé avec le prophétisme. C'est la rupture entre ce groupe qui va restaurer le protestantisme en Languedoc et les prophètes ou les prophétesses qui avaient traversé cette période. 1715-1716, double synode, une rupture qui va aller en s'élargissant. Dans un premier temps, Antoine Court, bon, dit oui, on veut bien accepter que des femmes prophétisent, mais à la seule condition qu'elles soient en accord avec, j'aime dire, l'esprit évangélique, pacifiste ou pacifique, et en rupture avec la violence canadienne. Alors peu à peu, eh bien, ce prophétisme va être de plus en plus féminin, de plus en plus crépusculaire et de plus en plus résiduel. On va le retrouver dans deux régions où il va perdurer. Un certain nombre de prophètes, et surtout de prophétesses, jusque dans les années 1750, vont continuer à animer des cultes clandestins dans la région des Boutiers. Mais très souvent, on assiste à des schismes à l'intérieur des paroisses protestantes. Entre ceux qui continuent à écouter ou à suivre les prophètes et les prophétesses, et au contraire, ceux qui se sont rangés dans le camp d'Antoine. En Languedoc, paradoxalement, extinction du prophétisme en Haute-Cévenne, là où il avait été le plus violent et à l'origine de la guerre de Camisade. Par contre, il va perdurer en Vonage, dans une petite région qui a été très protestante, qui se trouve à l'ouest de Nîmes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une région où le prophétisme est totalement éteint. J'allais dire, il est remplacé par des lotissements qui sont en train de pousser comme des cèpes et des champignons entre Nîmes et Montpellier. C'est absolument affligeant. Bon, je reviens. Voilà. Et donc, là, on va voir, ici et là, dans les villages de la Vonage, quelques familles qui vont entretenir cet esprit ou cette flamme prophétique. Et ici, dans cette région-là, dans la région de Beauvoisin, de Lunel, etc., un certain nombre de ces familles qui se rattachent à cette tradition prophétique, eh bien, vont progressivement devenir des Quakers. Et à partir de 1750-60, eh bien, un certain nombre de Quakers se revendique du prophétisme Cévenol, mais uniquement dans sa version pacifiste, en récusant la violence. Conclusion. Et bien, pour conclure, je vais me permettre de lire un texte que je n'ai jamais édité. Mais pour une fois, je le trouve pas mal. Donc, je vais le lire. Par sa dimension théâtrale, théâtre sacré des Cévennes, la gestuelle stupéfiante des inspirés rend intelligible l'oppression et la souffrance devenue indicible. Et ça, ça nous ramène au traumatisme de la révocation de l'édit de Nantes. Quand les mots semblent impuissants pour dire le malheur huguenot, Les corps l'expriment par les convulsions et les sanglots. À travers leur corps s'exprime une révolte déconcertante, mais à l'énergie irrépressible, elle a été à l'origine de la guerre des camisards. À travers leur corps, donc, voilà ce que s'exprime, mais le corps n'est qu'un élément du prophétisme. La parole prophétique, sous toutes ses formes, vision, songe, avertissement, est partie intégrante d'une piété émotionnelle que certains qualifieraient de baroque et qui nous intrigue. Le prophétisme Evnol doit se lire comme la prise de parole d'une population blessée et humiliée qui ne se résout pas à l'éradication programmée de sa foi, de sa culture et de son identité. Elle est, dans l'adversité, l'expression d'une forme d'insoumission inédite, la revanche des vaincus de l'histoire. Antoine Court, Jean de Peu de Mine, vous voyez le mépris de ce pasteur. Jean de Peu de Mine, les prophètes entrent avec fracas dans l'histoire, je l'ai expliqué. La crise prophétique languedocienne et sévenole doit enfin nous interpeller sur la violence de tout État à l'égard de sa population ou des minorités persécutées. Je vous remercie. Je suis dans le temps.